Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On revient ce matin sur un épisode maintenant relativement ancien mais qui n'a rien perdu de son actualité pour un blues de l'expert qui n'a pas tellement de blues mais qui conserve tout de même une certaine colère. Il est beau ce couvent où vous habitez, Marie-Antoinette Fauconnier. C'est un héritage. Comment ça se fait que vous habitez ici?
Ah, ça, c'est un...
À Costa.
C'est une envie de jeunesse qui s'est concrétisée. J'habitais tout à côté et j'étais amoureuse du couvent. Et donc, quand il a été à vendre la première fois, quand les moines ont décidé de partir, j'avais 10 ans et je voulais absolument que mes parents l'achètent. Mais ça ne leur convenait pas parce que ma grand-mère était là et qu'on n'achète pas les biens de l'église et qu'il y avait plein d'interdits là-dessus. Et qu'est-ce qu'on en ferait? Et voilà. Donc, ça ne s'est pas fait et tout le monde était content parce que Catherine Deneuve avait acheté le couvent. Donc, les gens se sentaient très valorisés de se dire que quelqu'un s'intéressait, quelqu'un de ce niveau-là, j'allais dire de notoriété, s'intéressait à un couvent qui était près de chez eux. Et pendant 10 ans, elle a eu le couvent, mais elle ne l'a pas habité, elle ne l'a pas entretenu, elle ne l'a pas choyé, elle ne s'en est pas occupée. Et ça a beaucoup déplu à tout le monde, parce que quand même, le but c'était de préserver ce monument.
Et entre-temps, vous aviez 20 ans ?
Entre-temps, moi j'avais 20 ans, j'avais 20 ans, j'avais rencontré Denis et on s'est dit, mais on a su qu'il était à vendre.
De nouveau ?
De nouveau, parce qu'elle n'en avait pas l'usage, elle n'avait pas envie de s'en occuper et nous avons décidé de l'acheter. Donc on n'avait pas le premier sou pour le faire, mais on s'est dit qu'on y arriverait. Et effectivement, tous les gens du village nous ont aidés. Il y a eu un élan de solidarité et puis un élan de... Oui, les gens se sont dit que nous n'avions pas sûrement les moyens qu'elle avait, mais que nous avions la volonté qu'elle n'avait pas. Et bon, comme les finances n'avaient pas suffi, ils se sont dit que peut-être nous, ça fonctionnerait cette fois. Et puis, donc ça s'est fait, on a acheté le couvent.
Moi, j'étais médecin.
Voilà, c'est ça, j'allais dire, vous étiez médecin.
J'avais fait le choix d'exercer dans le milieu rural et j'ai cherché un lieu pour m'installer dans cette région.
Donc en fait, c'est ici que vous vous êtes installé comme médecin.
Voilà,
À quelle époque ?
J'ai posé ma plaque en juillet 79. Voilà.
Médecin généraliste.
Dans le couvent, il y avait juste une partie restaurée, mon cabinet médical. Le parloir des moines était devenu la salle d'attente.
Pourquoi est-ce que vous aviez choisi le milieu rural, Denis Fauconnier ?
Moi, je suis un... Je me considère... mon père avait une profession agricole. Hein, il était ingénieur agricole. Il était fonctionnaire. J'ai toujours été passionné par la nature, l'environnement, tout ça. Les plantes, les espèces, tout ça.
Vous
donc,
étiez heureux
j'aimais
ici.
Le rural. Hein. Et donc, je voulais avoir une activité agricole en parallèle.
Et Marie-Antoinette, vous connaissez
qualité de vie. Et aussi une qualité de vie, parce que quand il avait fait un remplacement sur Ajaccio, on lui avait fait une proposition pour un très gros cabinet, on a dit mais c'est pas une vie, c'est pas ça qu'on veut, surtout pour nos enfants, on voudrait quelque chose de beaucoup plus ouvert, etc. Et ça a été l'occasion d'être là où on voulait et de vivre comme on voulait.
Donc vous avez pu à la fois exercer et puis faire un jardin, peut-être ?
Mon épouse était fille unique et avait hérité de quelques dizaines d'hectares. Donc, qu'on a exploité, qui sont à proximité du couvent. Donc, on a tout de suite aussi travaillé sur les propriétés. Et le premier souci, c'était de protéger du feu. Donc, on a fait des clôtures et on a mis du bétail à l'intérieur pour éviter qu'il y ait toute la broussaille qui soit la proie des flammes.
Donc, une vie heureuse, tranquille.
Tranquille, tonique.
Active, quoi.
Active, oui. C'était un petit peu compliqué tout à la fois, mais c'est vrai que c'était extrêmement agréable. C'était exactement ce qu'on voulait. Donc on ne peut pas espérer mieux.
Et puis, coup de tonnerre dans un ciel bleu.
Oui, et puis en 86, ma mère est morte le 27 avril. Et donc, nous avions l'esprit ailleurs que, j'allais dire, à l'écoute des médias. Et quand même, au moment de l'enterrement, les gens parlaient et disaient « Oui, ce qui s'est passé, Tchernobyl ». Nous, ça ne nous évoquait rien. En plus, c'est vrai que Le nucléaire, c'était absolument pas un domaine que l'on côtoyait, que l'on avait l'habitude de comprendre ou d'entendre. Donc, c'était tout à fait autre chose. Mais ça nous a quand même intrigués, j'allais dire. On n'a pas pris le temps de s'apesantir, mais ça nous a intrigués. Et juste après, on a des amis qui sont partis en Italie et qui nous ont laissé leurs enfants. On était amis avec eux, nos enfants étaient amis ensemble. Donc, nous faisions ça de temps en temps. Et quand ils sont revenus d'Italie, c'était donc début mai, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour les enfants ? Mais de quoi tu nous parles ? Qu'est-ce que tu dis ? De quoi s'agit-il ? Mais vous savez, en Italie, on n'avait plus le droit de consommer des verdures, enfin tout ce qui était salade et compagnie. Les produits frais étaient interdits. Et puis, on a ramené un journal italien. Et nous, quand on a vu le journal italien, ça nous a quand même beaucoup, beaucoup inquiétés. Parce que c'était Il Tirreno. Parce que, enfin, nous, la Corse, géographiquement, on est quand même beaucoup plus proche de l'Italie. Et les mesures que prenaient les militaires américains de la base de Pise, qui étaient pour nous très proches, étaient des mesures très inquiétante. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Ce sont pas des écologistes. C'est pas une réunion de baba cool qui vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire pour se préserver, etc. Non. C'était des militaires américains. Donc, on a pris au sérieux. On a lu le décalogue. Voilà.
C'était des mesures de confinement.
De confinement. Des populations.
Des populations. Donc, c'est des mesures très importantes. Après le confinement, c'est vraiment l'évacuation des territoires. Là, c'était mesure de confinement. Et les Italiens étaient inquiets parce qu'eux n'avaient pas ces mesures de confinement. Eux n'avaient que des mesures alimentaires, des contre-mesures alimentaires. Interdiction de boire du lait frais, des produits, ou de manger des produits frais. Interdiction de manger des salades, des choses comme ça, des produits frais. Ces denrées avaient disparu des étalages en Italie. Mais les Italiens allaient à la plage, se promenaient, tout ça. Donc, étaient inquiets par ces mesures de confinement.
Les militaires n'avaient pas dit « nous prenons des mesures de confinement ». Les Italiens ont été choqués de ne plus voir personne au bout d'un moment. Il n'y avait plus d'activité sur les bases. Ils se sont dit « mais que se passe-t-il donc ? Où sont-ils donc passés ?» Et là, ils ont obtenu le décalogue, il décalogue, et le décalogue, c'était les mesures. Alors, ne pas faire d'enfants pendant un an.
Décalogue, c'est les 10 commandements.
Voilà, c'est ça. Les 10 mesures, enfin, ou 10, je sais. Enfin, eux, ils avaient dit, il décalogue, mais je n'ai pas compté combien il y en avait. Mais le fait est que c'était ne pas faire d'enfants pendant un an.
Pendant un an.
Calfeutrer les maisons, rester enfermés, ne pas laisser sortir les chiens, recouvrir les plantations avec du plastique, prendre des douches régulières. Enfin, c'était ça, les contre-mesures.
C'était quelque chose qui était très, très sérieux et très inquiétant, quoi.
Nous, en Corse, nous sommes à 40 km de l'Italie, à 40 km de l'île d'Elbe, où les mesures étaient équivalentes. Nous ne sommes pas loin de la Toscane, où il y avait 7 bases américaines. Et nous, ici, rien du tout, aucune contre-mesure.
Aucune contre-mesure, mais aussi aucun signe. C'est-à-dire que tout ça se passait dans un environnement parfaitement intact.
Voilà, c'est le problème du nucléaire. C'est que sur le moment, on ne voit rien, on ne ressent rien, on ne sent rien. Et donc, ça peut passer complètement inaperçu. Et donc, nous, on a téléphoné. J'ai téléphoné au numéro vert qu'ils avaient mis en place.
Il qui ?
Le gouvernement.
Le gouvernement avait mis un...
Le gouvernement français.
Oui, français. Avait mis un numéro vert à la disposition du public pour répondre aux interrogations. Et Marie-Antoinette, c'était vers le 20 mai 86. Et Marie-Antoinette a téléphoné donc, pour avoir des renseignements sur la contamination de notre région.
Je leur ai demandé quels sont les niveaux de contamination en Corse. Et ils m'ont dit, mais madame, bas. Mais bas, je dis, attendez, expliquez-vous. Oh, vous savez, non, mais de la moyenne du sud-est, c'est... Je dis, mais la moyenne, ça ne veut rien dire. Je dis, moi, j'étais enseignante, 20 et 0, ça fait 10 en moyenne, mais 10, ça ne correspond ni au 20 ni au 0. Donc, je ne voudrais pas une moyenne, je voudrais savoir ce que vous avez sur la Corse comme mesure. Ah, mais nous n'avons pas ça là, et puis nous ne pouvons pas vous les donner. Si nous, enfin, on ne savait pas s'ils en avaient, qu'ils ne voulaient pas les donner, ou s'ils n'en avaient pas du tout. Et on s'est longtemps posé la question de savoir si, en fait, ils ne savaient pas, ou s'ils n'avaient pas voulu le dire. C'est pendant longtemps, on s'est dit, mais est-ce qu'ils sont incompétents, ou bien est-ce qu'ils sont malfaisants? Je pense qu'il y a eu un mélange des deux, quand même, mais voilà où on en était de nos cogitations à ce moment-là. Et on a dit, on ne va pas en rester là, on veut savoir. Moi, si on me répond à côté, je me dis, on me cache quelque chose, j'ai besoin de savoir un petit peu ce qu'il y a. Donc, Denis...
Marie-Antoinette a insisté auprès du numéro vert pour avoir des chiffres sur la Corse, et on l'a orienté vers le SCPRI. SCPRI, Service Central de Protection
contre les rayonnements ionisants,
dirigé par le professeur Pellerin de l'époque. Donc, là, au SCPRI, tu as eu un interlocuteur...
Il y avait Moroni, il se trouve que...
Qui lui a dit, bon, si vous voulez savoir ce que vous avez dans votre région, envoyez-moi du lait, et lui a expliqué le protocole à suivre pour faire l'expédition.
C'est-à-dire qu'il vous a proposé, finalement, d'analyser, de faire l'échantillonnage qui n'avait visiblement pas été fait, en tout cas.
Oui. Ou en tout cas, dont il ne nous avait pas donné de résultats.
J'ai récupéré deux échantillons de lait auprès de mes patients, c'est entre le 22 et le 26 mai 86.
Vous aviez beaucoup de bergers parmi vos patients.
Oui, beaucoup, oui. C'est une région pastorale. Donc, on les a expédiés. Et le 1er juin 86, on reçoit un coup de fil du professeur Moron qui nous donne la contamination des échantillons en minimisant.
C'est-à-dire
il m'a dit, dans un échantillon, il y a 320 becquerels d'iode 131 radioactif et dans l'autre, 360 becquerels d'iode 131. Donc ça, c'était ramené à la date du prélèvement. Mais ça faisait quand même beaucoup, puisqu'on sait que la période physique de l'iode 131 est de 8 jours. Tous les 8 jours, la radioactivité diminue de moitié. Donc il fallait remonter dans le temps, savoir quelle est la contamination initiale au moment où le nuage est passé sur la Corse. Et là, donc, on s'est entretenu avec des experts, donc il y avait Roger Bella-Belbeox, Jean-Claude Zerbib, du CEA, et qui nous ont expliqué donc les problèmes de période physique, de période effective, tout ça. Et en remontant dans le temps, ils ont estimé la contamination initiale à 5000 becquerels d'iode 131 par litre, ce qui est déjà énorme.
Oui, rappelons quelle est la norme considérée comme...
Voilà. Dans...
Vous pouvez nous la rappeler, Denis Fauconnier ?
Il y a la norme...
La norme admise.
La norme CE qui avait été admise à l'époque était de 500 becquerels la première semaine de mai, 500, puis 250 la deuxième semaine de mai et 125 la troisième semaine.
Et donc là, on était à 5000.
Donc on était très au-delà des normes. Mais au-delà de ça... Il y a un livre qui s'appelle « Toxique nucléaire », qui était la bible des radioéléments, un livre de médecine, qui était fait par le professeur Tubiana, et qui, dans ce livre, concernant l'iode 131, il est dit « Le lait de tous les jours des nourrissons ne doit pas dépasser 13,7 becquerels d'iode 131 par litre de lait. Ceci pour ne pas atteindre la limite annuelle d'incorporation de 5000 becquerels par an. » Il ne fallait pas dépasser 5000 becquerels par an en prenant compte des réglementations françaises, de la loi française. Nous, avec 5000 becquerels, dans un litre de lait de chèvre ou de brebis, on avait la dose annuelle pour un nourrisson. Et dans ma clientèle, j'avais des nourrissons élevés au lait de chèvre. Tout le monde n'achète pas du lait Gloria ou de lait en brique, voilà, c'est ça. Donc, d'où mon inquiétude. Et là, j'ai poursuivi les recherches, tout ça. Et par la suite, on a su que cette estimation de 5000 becquerels était très sous-estimée.
C'est-à-dire que la contamination avait été encore plus forte.
Parce que le CEA avait un troupeau expérimental. Ils ont trait le lait de chèvre tous les jours au moment de la période de Tchernobyl, en mai 86. Et ils ont analysé la radioactivité de ce lait de chèvre. Ils se sont aperçus...
Qui était où, ce troupeau ?
Il était Cadarache.
À Cadarache, d'accord. Donc dans le sud-est, pas en Corse, mais dans le sud-est, pas très loin de chez vous.
C'est un troupeau suivi par le CEA. ils se sont aperçus que la période effective de l'IO 131 dans le lait, de chèvre ou de brebis, était de 4 jours et demi. Donc, pour remonter dans le temps, il fallait, on avait des choses beaucoup plus importantes. Donc, en réalité, les dernières études du CEA-IPSN font état de lait de l'ordre de contamination de l'ordre de 100 000 becquerels sur la côte orientale, qui est la région la plus contaminée de Corse. 100 000 becquerels par litre.
Et à ça, l'époque, on disait que c'était surtout là où il avait plu qu'il y avait de la contamination.
Alors, oui, là où il a plu, c'est le printemps. C'est le printemps, donc tout le monde est dehors, les jardins sont en plein démarrage, voilà. Et nous, on a, au niveau pastoral, c'est le moment où on a du lait, c'est le moment où on a du broch, puisqu'on traite,
c'est
le fromage frais, et les délais entre le moment où on le fabrique et le moment où on le mange peuvent être d'un jour. Deux jours, trois jours, une semaine, mais c'est très rapide, parce que on est, je dirais pas en autoconsommation, mais voilà, ça c'est un produit qui est livré le matin même et est revendu à peu près partout. Donc les gens sont très demandeurs de ça. On a passé l'hiver à manger autre chose, on a envie de manger des salades, on a envie de manger du frais, des verdures, etc. C'était vraiment pour nous le pire moment où ça pouvait nous arriver. Il y aurait eu Tchernobyl à l'automne, en hiver, je dirais même fin d'été, ça ne posait pas du tout le même problème. D'autant plus, par exemple, moi, j'avais des vaches. Donc j'avais un troupeau de vaches, elles étaient en stabulation libre. En Corse, il n'y a pas de vaches à l'étable, donc elles étaient en stabulation libre. Même, elles auraient été à l'étable, c'était le printemps, donc elles étaient dehors. Et elle mangeait l'herbe qui venait d'être arrosée, que ce soit par, vous parliez de pluie, que ce soit par des pluies ou que ce soit par des bruines ou des brouillards. Ce qui était un petit peu différent, parce que les pluies, ça a mis les radioéléments dans le sol et ils ont été, ils ont fait le circuit plusieurs fois, c'est-à-dire qu'ils sont remontés dans les herbes après, bon, etc. Mais les bruines, ça a imprégné les végétaux. Et j'achetais du foin sur la côte orientale, pour mes bêtes, et nous venions de nous en faire livrer plusieurs tonnes. Donc, nous avions manipulé énormément de tonnes de foin. Nous avions ce foin que nous ne savions pas si nous pouvions le donner aux bêtes. Il se trouve que M. Musso, qui était à l'époque vice-président du Parlement européen, avait sa femme qui avait des brebis et achetait le foin au même endroit que moi. Et il se trouve que nous le connaissions. Donc j'ai dit, mais est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y a dans ce foin? Et c'est à partir de là qu'il nous a, lui nous a aidé surtout Denis, à aller au Parlement européen pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui s'était passé, questionner les gens, essayer d'avoir des réponses et poser les problèmes. Voilà.
Vous dites essayer d'avoir des réponses parce que là, on était resté sur l'échange que vous aviez eu avec le SCPRI.
C'était tellement ridicule parce que c'était vraiment nous prendre pour des imbéciles. Et je crois que pendant des années, ils ont essayé de le faire avec la population entière. Ça correspond à tant de cigarettes. Oui, mais moi, par exemple, je ne fume pas. Et puis, ça correspond à un voyage en avion. Oui, mais enfin, raison de plus. Je veux dire, si on a un voyage en avion et qu'on en prend encore une couche et qu'on fume par-dessus le marché, je veux dire, c'est pas anodin, c'était pas... Donc, nous, on voulait vraiment des réponses scientifiques.
Voilà. On voulait des détails sur la contamination de la Corse. Donc, le SCPRI nous a donné des premiers chiffres avec des propos lénifiants. À la suite de cela, j'ai questionné la DAS pour avoir plus de détails sur la contamination de la Corse, sur ce qui se passait, la surveillance du territoire. Là aussi, on a eu des propos très lénifiants. Un courrier qui a été adressé... Enfin, la DAS ne m'a répondu après que l'on ait réuni tous les médecins de Balagne et que l'on ait fait une lettre ouverte dans la presse. Autrement, la DAS ne me répondait pas. Mais les propos étaient lénifiants et n'étaient pas satisfaisants, ne donnaient pas, par exemple, la contamination du lait au début du mois de mai 86.
Donc ça, vous l'avez obtenu auprès des autorités européennes ?
Non, là, c'était local. Mais ensuite, il y a quand même...
Non, mais la réponse que vous cherchiez, la réponse scientifique que vous demandiez ?
Non seulement on n'a rien obtenu, mais ça a été pire que ça. Ça a été pire que ça parce que on a tellement insisté qu'ils ont fini par nous donner des chiffres. Et les chiffres qu'ils nous ont donnés, c'était les chiffres des échantillons que Denis avait faits. Donc ça nous a assis. Parce qu'on s'est dit, mais alors, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Sinon que nos chiffres, les chiffres de nos analyses, c'est pas possible. Voilà, c'était ça. Donc la réponse de la ministre de l'époque, Michèle Barzac, c'était de redonner, comme, puisqu'on insistait vraiment pour en avoir, la toxicité, j'allais dire, des échantillons que Denis avait envoyés au SCPRI. Et là, on s'est dit, mais c'est ahurissant. C'est ahurissant, on est dans quel monde ? Ce n'est pas possible. Parce qu'on espérait que ça ne se passait pas en France. Donc on était quand même assez libre de ce côté-là. On s'est dit, ce n'est pas un accident d'une centrale nucléaire française. On peut dire, elles sont en mauvais état, mal faites, en fait, n'importe quoi. Ce n'était pas grave, on n'avait pas la responsabilité directe. Qu'est-ce que ça leur coûtait de mettre en place quelque chose pour se préserver, ou même, à la limite, si c'était trop tard, pour étudier le phénomène et pouvoir en tirer quelque chose pour la suite. Parce que nous, on s'est dit, au moins qu'ils s'en servent, qu'ils ne gâchent pas cette catastrophe, qu'ils s'en servent pour nous dire, ben voilà, s'il y a autre chose, on saura comment faire.
C'est-à-dire, il aurait fallu établir un protocole de suivi des populations. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place, Denis Fauconnier ?
Nous, notre action, elle a été... On a vraiment insisté dans notre, la poursuite de notre action à partir du moment où le préfet de Corse a organisé une conférence à Ajaccio. C'était le 15 juillet 86, suite aux interrogations de la population. Et autour de lui, il y avait des représentants de la protection civile, de la DAS, du ministère de la Santé, du SCPRI, tout un ensemble de personnes. Et là-dessus... Il y a eu un article dans la presse, des articles télévisés, ça a été repris par les médias. Ils ont fait état que de contre-vérités.
C'est-à-dire ?
Rien de vrai dans ce qui a été dit. On a dit, par exemple, dans le processus de fabrication du fromage, la totalité des radioéléments est éliminée dans le petit lait, ce qui est faux. On a dit, dans une fourchette de 2 à 20 000 becquerels, d'iode 131 par litre de lait, on ne se pose pas de questions. On a fait un amalgame entre la radioactivité naturelle et ce qui venait de Tchernobyl, parce qu'on sait qu'en Corse, il y a des sources radioactives qui ont perturbé les analyses. Que des contre-vérités. Là-dessus, voir qu'au plus haut niveau de l'État, on étale des contre-vérités comme ça, qu'on nous prenne pour des imbéciles. Et donc, là, ça, on ne pouvait pas en rester là, il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Et c'est de là où on a persévéré nos recherches, tout ça. On a fait faire des analyses. On a fait analyser notre foin que l'on avait stocké ici, il y en avait près de 10 tonnes, contenait 118 becquerels d'iode 131 à la mi-juillet, donc 2 mois et demi après le passage du nuage. Là, il faut appliquer la période physique. Là, on a des chiffres précis. Donc, on avait une contamination du foin de l'ordre de 70 000 becquerels par kilo au début. Ce qui était énorme. Donc, on avait une idée de la contamination initiale.
Quand on est allé sur le continent, au Luxembourg, donc grâce à Musso, Denis était dans la salle avec des nucléocrates. Et moi, j'étais dans le couloir avec mon petit garçon. Et personne ne savait ni qui j'étais, ni ce que je faisais. Et je les entendais, quand ils sortaient de la salle, dire « Mais vous vous rendez compte, si maintenant n'importe qui... » peut savoir ce que c'est que le nucléaire. Mais où va-t-on ? Et j'ai été tellement... Ça m'a extrêmement choquée. Ça m'a rendue malade de me dire, mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils croient ? Parce que, je veux dire, c'est profiter de l'ignorance de la population. Ignorance par manque de connaissances ou par... par la difficulté de la chose. Et ils vont en profiter. Et ils se disent, c'est bien, on les garde dans l'ignorance, et comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, j'ai trouvé ça inadmissible, venant de ces gens-là, qui étaient payés, dont le travail était de nous protéger. Et c'est ça qui nous a beaucoup secoués, à Denis et à moi, c'était de voir que tous ces gens qui étaient là, dont le travail était de protéger les populations, qui n'avaient qu'une envie, c'est que les populations ne sachent rien, et continuent à faire leurs petites affaires, en se disant, bon, circuler, il n'y a rien à voir, on verra, pour l'instant, c'est pas ici, et puis, s'il y a quelques morts, on s'en fiche.
Mais donc, vous parliez d'un suivi des populations qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait. Mais vous, est-ce que vous avez réussi à mettre en place quelque chose, Denis Fauconnier, en tant que médecin, généraliste ?
Moi, en tant que médecin, j'ai exercé avant Tchernobyl, j'ai exercé après. Donc, j'ai constaté dans ma clientèle une augmentation des problèmes thyroïdiens, augmentation des dysfonctionnements thyroïdiens, plus d'hyperthyroïdie, plus de nodules. Voilà. Et puis, au niveau de la Corse, j'ai fait des recherches sur les hypothyroïdies néonatales, parce qu'on sait que un des premiers indicateurs de pollution nucléaire, c'est l'apparition d'hypothyroïdies néonatales pour les enfants qui ont été contaminés à l'état de fœtus et qui naissent avec une thyroïde qui ne fonctionne pas. Donc,
et donc
rien
de
que
fait...
sur la Corse, j'ai étudié auprès des pédiatres des hôpitaux en Corse et je me suis rendu compte, bon, j'ai fait des courbes. Avant Tchernobyl, on avait une moyenne de 1 cas par an. Il y a des années, il y avait 0. Il y a une année où il y en a eu 2. Et en 86, on a eu 5 cas. Dont 4 cas vraiment en période critique, c'est-à-dire entre le 15 mai et 15 octobre 86. Donc c'était quand même un petit pic significatif. Et après, c'est redevenu anormal. Et j'ai étendu les recherches. J'ai essayé de trouver ce qui s'était passé sur le continent. Et au niveau de la région PACA Corse également, on avait avant 86 une moyenne de 9 cas par an dans la région PACA Corse. Et en 86, on a eu 23 cas. Donc là, c'était aussi comme significatif. Parmi les indicateurs de radioactivité, il y a plusieurs facteurs. Il y a les hypothyroïdies néonatales, les leucémies de l'enfant, les cancers de la thyroïde, les cancers de la thyroïde de l'enfant, bien sûr, et les pathologies qui surviennent chez les jeunes qui ont été contaminés à l'état de fœtus. Voilà. Et là, parmi ces indicateurs, j'ai fait des recherches, tous sont au rouge. Donc pour moi, c'est la preuve que Tchernobyl a eu un impact important sur la population. Voilà. Parce qu'on a des pics aux époques voulues, aux tous ces indicateurs.
Quand vous dites que vous avez fait des recherches, ça veut dire que vous vous êtes mis en lien avec tous les pédiatres de Lille, de la Corse ?
Je l'ai fait pour les hypothyroïdes natales.
Uniquement ? Mais pour les autres pathologies ?
Pour les autres pathologies, ma fille a fait une thèse sur les cancers de la thyroïde.
Votre fille qui est médecin également ?
Médecin. Elle a fait sa thèse de médecine, de doctorat, sur les circonstances diagnostiques du cancer de la thyroïde en Corse. Parce que on a reconnu qu'après Tchernobyl, il y a eu une augmentation importante des cancers de la thyroïde. On a dit aussi que ça avait commencé avant. Mais on a toujours dit, les spécialistes, les pontes de la médecine ont dit, il y a une augmentation effective des cancers de la thyroïde, c'est indéniable, mais elle est due à l'évolution des pratiques médicales. C'est-à-dire, plus on recherche du cancer, plus on en trouve. Et ma fille donc a fait une thèse dans ce sens pour voir, pour étudier ce problème. Et elle a étudié les circonstances diagnostiques du cancer de la thyroïde. Or, il se trouve qu'il n'y a que 8% des cancers de la thyroïde qui sont des microcancers asymptomatiques de découverte fortuite. Les 92% restants sont des cancers qui se sont manifestés, qui ont eu des traductions cliniques, soit du fait de leur grosseur ou des troubles engendrés, ou des complications, des métastases. Voilà. Donc, cet argument est faux. Est faux. Donc, il y a une augmentation, elle est réelle, elle est importante. Et d'autres médecins ont dit que l'augmentation avait commencé avant Tchernobyl. Ça, c'est explicable parce que l'échographie médicale de la thyroïde a commencé dans les années 70, à la fin des années 70. Et il est logique, quand l'on met en place une nouvelle technique, que l'on dépiste davantage de choses, c'est tout à fait logique. Mais au bout d'un moment, quand on généralise la technique, on devrait avoir un plateau.
On a un rythme de croisière.
Mais en fait, on a encore une augmentation de l'accroissement. Donc cet argument... Il y a une petite augmentation avant Tchernobyl, mais elle est explicable. Voilà. Et un autre des paramètres que j'ai pu étudier ici, c'est par exemple la population qui est née en 86, au deuxième semestre 86. Cette population qui a été contaminée à l'état de fœtus, c'est-à-dire leur mère qui a ingurgité des éléments radioactifs qui sont allés au niveau du fœtus. Donc sur la Balagne, il y a à peu près 70 naissances au deuxième semestre 86. Je connais 3 jeunes gens qui ont développé des pathologies malignes graves, qui ne seraient plus là si la médecine ne les avait pas sauvés. 3, ça fait 1 sur 25. Donc c'est absolument 4%. Énorme. Énorme. 1 sur 25 qui a développé. Donc il y a une leucémie lymphoblastique aiguë, un cancer de la thyroïde et un lymphome. Donc ça, sur une petite population comme ça, donc j'aurais voulu que ce soit généralisé sur toute la Corse, même la France. Hein. Mais là aussi, il y a des entraves aux recherches. Il y a eu quelque chose de très particulier et que je tiens à ce que ce soit mis sur le tapis et analysé, c'est le problème du registre des cancers de l'enfant PACA Corse. En 86, en France, il y avait 6 registres de cancers de l'enfant. 6 registres régionaux de cancer de l'enfant en France.
Rappelons qu'un registre d'une maladie, c'est l'obligation pour les médecins de signaler tous les cas qui se présentent dans leur cabinet, pour pouvoir les noter et pour pouvoir effectivement faire un suivi.
Ce n'est pas les médecins généralistes, hein, c'est répertorié au niveau des hôpitaux, des centres d'oncologie, enfin c'est répertorié.
Partout.
Donc, mais là c'est au niveau, puisque c'est un registre, c'était des registres pédiatriques, hein. Donc c'est au niveau des pédiatres ou des pédiatres hospitaliers. Donc il y avait 6 registres régionaux en France en 86, dont le registre PACA Corse, qui avait été ouvert en 84. En 96, Annie Sugier, qui était directrice de l'IPSN, fait une conférence de presse. On a un problème. Il y a un excès de cancer de la thyroïde chez les enfants de la région PACA Corse. On a 14 cas en 3 ans, dans les années 92 à 94, alors qu'on en avait eu 3 cas les 7 années précédentes. Donc c'était une anomalie. Donc ça a été repris, il y a eu une dépêche AFP, ça a été repris par Le Monde et le Nouvel Observateur en 96. Quelques jours après, la Direction Générale de la Santé corrige le tir et dit non, il y a eu une anomalie dans l'interprétation des résultats. Mais on va vous expliquer tout cela, on va étudier tout ça et on vous donnera toutes les explications nécessaires. C'était en 96. On attend toujours ces explications, mais le plus grave, c'est que c'est ce registre de PACA Corse s'est arrêté en 96. Et c'est le seul qui se soit arrêté en 96. Les autres registres ont continué. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que c'est la politique qui contrôle les données scientifiques. Mais de toute façon, c'est ce qui se passe à Fukushima aussi. Il y a des pathologies qui sont survenues après un problème nucléaire. Et l'échappatoire pour les autorités, c'est de contrôler toutes les données scientifiques qui pourraient prouver cela.
Marie-Antoinette, vous
connaissez. On a eu accès au scellé qui avait été donné à Odile Berthelet-Geoffroy.
Attendez, je voudrais juste préciser qu'elle était juge, qu'elle était en charge du dossier santé,
absolument,
environnement, et qu'elle n'est plus juge depuis environ un an.
C'est pour ça que je peux dire, lors du procès que les associations avaient essayé de faire à ce propos, il y avait eu des recherches dans les ministères, et un peu partout d'ailleurs. Et dans ce qui était arrivé sur le bureau de Madame Berthelet-Geoffroy, il y avait des notes de ministres. Et ces notes-là disaient, entre autres, qu'on n'allait pas prendre de mesures pour la Corse. Ça correspondait à tellement peu d'habitants, c'était quelques arrondissements de Marseille. Donc à quoi bon prendre des mesures pour préserver la population pour si peu ? Donc je trouve que ça, c'est important quand même, parce que ça prouve bien que ce qui leur importe, ce n'est pas la santé des populations, mais c'est, j'allais dire, la tranquillité de ceux qui fonctionnent avec le nucléaire, par exemple. Mais ça aurait été pareil avec d'autres choses, je suppose. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, pourquoi prendre des mesures pour si peu de monde ?
Pour nous, la radioprotection doit se baser sur l'individu le plus sensible, le plus vulnérable. Et l'individu le plus vulnérable, c'est une femme enceinte qui vit en milieu rural. Et c'est ce que j'étais allé exposer à Bruxelles en disant pas de protection contre le nucléaire pour les populations rurales. Voilà, c'est des populations délaissées parce qu'une une population rurale fait souvent de l'autoconsommation, des circuits très courts, et en comparaison avec les populations citadines qui vont se nourrir dans les supermarchés et tout ça. Mais ce que je voulais dire aussi, dans les scellés, il y a un document qui a été récupéré, que nous a montré notre avocat de l'époque. Il y a eu une commission interministérielle le 16 mai 86, en période critique. Et dans une note, il est fait état du lait de contamination de chèvres et brebis de Corse à plus de 10 000 becquerels par litre de lait. Et dans cette note, il est bien dit, surtout de ne pas diffuser, de maintenir ça sous silence. Voilà. Parce que ça a dépassé très largement les normes et recommandations, que ce soit françaises et européennes.
Ce qui est la réponse à la question qu'on se posait au début, est-ce qu'il savait qu'il ne voulait pas nous le dire ou est-ce qu'il ne le savait pas parce qu'il n'avait pas fait d'analyse ? Donc c'était des malfaisants et ce n'était pas des ignorants.
Il le savait, ce n'est pas une erreur, c'est une action délibérée. On a pris volontairement l'initiative de ne pas protéger les populations.
Et vous avez découvert tout ça en 86. J'imagine que c'est un...
Non, ça a été progressif.
À part palier.
Sur des années, petit à petit, on a récupéré des éléments. Dans chaque courrier, on trouvait la petite chose qui nous faisait progresser dans notre dossier. Ça a été très long. Ce scellé qui concernait du lait à plus de 10 000 becquerels, on ne l'a su qu'après la plainte qui a été déposée par l'Association française des malades de la thyroïde et la CRIRAD, donc une plainte qui date de 2002. On ne l'a su qu'en 2003 ou 2004, donc ça a été un élément tardif.
Le procès n'a jamais eu lieu ?
Si, il a eu lieu.
Il a eu lieu ?
Et Pellerin a été innocenté.
Ah oui, c'est ce fameux procès-là.
Oui, les associations déboutées. Les associations ont été jusqu'en cassation, et même jusqu'au niveau européen. Il se trouve que les juges étaient les mêmes en cassation française et au niveau européen.
Oui, c'était les mêmes.
C'est un hasard.
Absolument, bien entendu. Comme quoi, le hasard fait bien les choses pour certains, on peut dire. Pour nous, ça a été une découverte permanente et on a vécu, je dirais au début, on a vécu vraiment dans un cauchemar. Parce que nous avions notre vie par ailleurs et que nous ne savions rien sur le nucléaire. Donc on a été obligé de se former, donc on travaillait la nuit et on faisait les comptes. Et on disait, il y a tant d'enfants qui vont être touchés, on en a 3 sur 70, quel est le risque pour nous d'en avoir un qui va développer une maladie comme ça, parce qu'on n'aura pas, nous, fait ce qu'il fallait, parce qu'on ne nous l'a pas dit. Et on était en but à ces gens qui venaient de Paris régulièrement pour nous dire, mais vous ne comprenez rien. On a eu un certain professeur Laugier qui a parlé à la radio, donc c'était une émission ouverte, les gens appelaient, et il y a une dame qui dit, voilà, je suis enceinte, c'était au tout début, hein. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Mais madame, mangez ce que vous voulez, buvez ce que vous voulez, vous aurez un beau bébé. Et un agriculteur a dit, oui, mais le foin, s'il est contaminé, qu'est-ce que j'ai ? Ben, vous n'avez qu'à le laver, ça va partir, laver le foin, alors qu'on passe notre temps à se dire, pourvu qu'il ne pleuve pas, qu'il sèche, etc. Là aussi, c'était pareil, c'est, est-ce qu'il se moque à ce point de nous ? Moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'ignoble. Parce que ça n'aurait été rien de dire aux gens, voilà, il y a eu une contamination, on n'a pas fait ce qu'il fallait au début, mais voilà ce qu'on peut faire pour la suite. Au moins, nous, on voulait au moins que ça puisse servir pour la suite. Au moins qu'il fasse les analyses. Quand Denis parlait de l'Europe, Stanley Clinton Davis était... qu'est-ce qu'il était comme...
Commissaire européen pour l'environnement.
Commissaire européen pour l'environnement. Quand on lui a envoyé notre dossier, il a été effaré. Et il a dit, je vais exiger de la France qu'elle fasse un suivi des populations, parce que les populations qui ont eu ça, ça ne peut pas être anodin. Il faut absolument qu'il y ait un suivi. Ils ne l'ont pas pris en compte. Et là où c'est grave, c'est que ça, pour nous, en dehors du côté émotionnel qui fait que nous, on a eu des gens qui nous ont appelés. Quand ma fille a fait sa thèse, les gens téléphonaient pour nous dire voilà ce qu'on a, nous, ce qu'on a vécu. Enfin, à chaque fois, c'était un drame familial. On passait des nuits sans sommeil à se dire, mais enfin, ce qui arrive à cette famille, c'est terrible. Ce qui arrive à cette autre famille, c'est terrible. Et il y a aussi le fait que, pour Fukushima, l'attitude de la France a généré le drame qu'il y a maintenant là-bas. C'est-à-dire que si, en France, on avait osé prendre la mesure de la contamination et de ce que ça engendrait, si on avait fait les études, si on les avait mises au jour, si ça avait été publié, si ça avait été dit, je pense qu'au Japon, quand il y a eu la catastrophe qu'il y a eu à Fukushima, il aurait pu y avoir une réponse différente pour les populations et il y aurait eu des gens préservés des gens qui ne l'ont pas été. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ça a été exactement comme pour nous, mais en pire. Ils n'ont rien eu. On ne leur a pas dit, attention, il y a même eu une petite fille qui refusait de boire un verre de lait à l'école, et ça avait, c'était passé sur les réseaux, la professeure ou l'institutrice a jeté le verre en disant, vous voyez, elle, c'est une mauvaise citoyenne, elle refuse d'être solidaire. Voilà. Et ces choses-là, si nous, nous avions pris les choses différemment, ne se serait pas passé. Si nous, nous avions eu le courage de dire, si nos politiques avaient eu le courage de dire non, voilà, s'il y a ça, ça va donner ça sur les populations, et ça, c'est inacceptable. Parce que ce qui se passe à Fukushima, eh bien c'est la suite logique. Et c'est ce qui se passera peut-être en France bientôt, parce que nos usines sont vieillissantes et qu'il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas.
Ce qui se passe en France, suite à Tchernobyl, il y a eu une explosion des maladies thyroïdiennes. C'est indéniable. J'ai exercé avant Tchernobyl, j'ai fait mes études avant Tchernobyl, j'ai vu ce qui s'est passé à la suite. Il y a eu la thyroïdite de Hashimoto, maladie auto-immune qui détruit la thyroïde. C'est une maladie rare avant Tchernobyl et qui maintenant pullule. C'est énorme le nombre de personnes atteintes de maladie de Hashimoto. Il y a maintenant, je crois, près de 10% de la population française qui souffre de problèmes thyroïdiens. Et beaucoup de, il y a des cancers, mais beaucoup de maladies de thyroïdie de Hashimoto. D'ailleurs, ça a été prouvé en Corse par l'étude scientifique de l'hôpital Galliera de Gênes. Cette étude scientifique qui a été commandée par la collectivité territoriale de Corse pour étudier l'impact de Tchernobyl. Donc, ils sont catégoriques. L'excès de thyroïdie de Hashimoto en Corse est dû à Tchernobyl. Il y a un autre point. Il y a un registre des cancers dans l'Isère. C'est le plus proche de la Corse.
Oui, puisque celui de PACA n'existe plus.
Non, celui de PACA, c'est un registre de cancer de l'enfant. Registre adulte, tout âge confondu. Le plus proche, c'est de l'Isère. J'ai eu tous les feuillets, année par année, toutes les publications. Et j'ai calculé tous les chiffres, les augmentations d'incidence. Et il se trouve que le cancer papillaire de la thyroïde, donc qui est considéré comme un cancer radio-induit, a augmenté de 800% en 20 ans après Tchernobyl. Est-ce que vous en avez entendu parler quelque part? Est-ce que les titulaires, les gestionnaires de ce registre en ont fait état? Non, il a fallu. J'ai fait mes calculs et ce n'est pas discutable. Le cancer de la thyroïde en région de l'Isère a augmenté de 800%. C'est quand même énorme. On le cache, on le dissimule, on n'en fait pas état. Et au Japon, on assiste au même phénomène, on maîtrise l'information scientifique. Vous avez entendu parler il y a quelque temps qu'en Californie, les Américains ont fait une étude. Le nuage de Fukushima, donc, qui a traversé le Pacifique, a provoqué une augmentation importante des hypothyroïdies néonatales en Californie. Et au Japon, rien, rien de significatif sur les hypothyroïdies natales. C'est incohérent. Donc, les données scientifiques au Japon sont contrôlées.
Aujourd'hui, Denis Fauconnier, Marie-Antoinette Fauconnier, comment est-ce que votre vie s'est réorganisée autour de cette terrible histoire qui a dû tout transformer pour vous, j'imagine?
Oui, mais pour nous, ça a changé énormément de choses parce que d'abord, au début, on n'a plus vu la nature telle qu'elle était. Ensuite, ce qui m'a bouleversée, c'est que j'avais confiance. Je partais du principe que nous pouvions avoir confiance dans les scientifiques, que nous pouvions avoir confiance dans les politiques, un petit peu moins peut-être, mais enfin, au moins dans les scientifiques, pour moi, c'était sûr. Pour moi, un scientifique, c'est quelqu'un qui est curieux, et qui a envie de savoir et qui a envie de faire partager son savoir. Donc, ça a complètement changé la donne. J'ai vu les scientifiques comme certains, en tout cas comme des menteurs, comme des tricheurs, comme des gens qui n'en avaient rien à faire, qui ne s'intéressaient pas vraiment à la science, qui n'avaient pas envie de faire avancer les choses, qui n'avaient pas envie de partager leurs connaissances. Donc, c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça a changé vraiment ma vision du monde et des gens. Ensuite, c'est vrai qu'on s'est un petit peu replié sur nous-mêmes et on s'est dit, moi personnellement, je suis devenue extrêmement pessimiste dans plein de domaines. Je suis extrêmement pessimiste. Je pense que l'histoire du réchauffement climatique étant aussi une donnée, je pense qu'on arrive au bout d'un processus, que c'est là pour nous la fin de beaucoup de choses. que c'est dommage parce qu'on a gâché toute la chance qu'on avait. On avait cette chance extraordinaire de pouvoir utiliser le progrès à des fins positives. Pour moi, le progrès, c'était l'amélioration de ce qu'on avait. Et là, on en était arrivé à voir le progrès comme un danger. Ma vision du monde a complètement changé et je me dis que rien de bon ne pourra arriver dans la suite, dans les années qui viennent, parce que c'est toujours pareil, les discours sont les mêmes, les réactions sont les mêmes, il n'y a pas de changement réel.
Mais est-ce que vraiment les gens sont tous les mêmes? Là, vous avez beaucoup parlé des politiques, des scientifiques, mais la population, les gens autour de vous?
Pour ce qui est de la population sait, a envie de savoir, de ce côté-là c'est sûr, mais elle n'a pas le pouvoir. Le pouvoir est économique et le pouvoir est financier. C'est même pas un pouvoir politique. Donc, on est démunis parce qu'on ne fait pas le poids. Et on peut pas dire, ben, par exemple, Fessenheim, c'est pourri, ça va se casser la figure. Arrêtons là. Ben non. Pourquoi? On va encore prolonger. Et puis, si on allait construire des EPR encore ailleurs et... Non. Et on n'a pas le courage de dire, changeons les choses réellement. Et ça, c'est pour moi, c'est très mauvais signe pour, voilà. Et quand on a des enfants, on se dit dommage pour eux. Moi, c'est tout. Alors qu'avant, on n'était pas du tout dans cette optique. On vivait, on vivait heureux dans notre jardin. Et là, on profite de la moindre chose. On vit vraiment avec plaisir ce qu'on a à vivre. Mais on a perdu tout à fait nos illusions. Enfin, moi, j'ai perdu toutes mes illusions sur beaucoup de gens, quoi. Voilà.
Vous partagez ce pessimisme, Denis Fauconnier?
Tout à fait. Non, mais je pense que au niveau de la justice... Je vois Pierre Pellerin qui a fait une faute monstrueuse.
C'est la fameuse affaire du nuage qui s'arrêtait aux frontières.
Voilà. On sait qu'il a menti, on sait qu'il a dissimulé des données, on sait que les normes, tout a été dépassé. Cette personne a été innocentée par la justice.
Il est mort tranquillement.
Il est mort tranquillement, bon... Je pense qu'il a eu quand même du souci. Il a dû témoigner devant la justice, tout ça. Il n'a pas eu une fin de vie facile. Mais n'empêche qu'il a été innocenté en fin de compte. Puis au niveau de l'État, au niveau des ministères, tous les ministres qui ont été complices de cette chose n'ont pas été inquiétés non plus. Donc à partir de ce moment-là, tout est permis. Ce qu'on se dit, c'est que les normes, les recommandations, tout ça, ça n'a plus aucune valeur puisqu'il n'y aura jamais de coupable. Au niveau de ce service de la répression des fraudes, on ne sait pas ce qui se passe dans les produits alimentaires. Maintenant, la population perd confiance dans les produits frais parce qu'on sait qu'il y a c'est bourré de pesticides. Le raisin, les pommes, tout ça, c'est bourré de pesticides. Mais les contrôles, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, de toute façon, même au niveau de la qualité des eaux, de tout, de l'environnement, de l'air... Tout devient inquiétant. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de responsable, pas de sanction. Voilà. C'est notre univers actuel. Donc, on est très méfiant. On considère, on fait partie des privilégiés. Mais on fait notre jardin. On essaie de consommer bio. On essaie de protéger nos enfants. Mais
en attendant qu'il y ait une centrale dans la vallée du Rhône qui pète et qu'à ce moment-là, nous ne puissions plus consommer nos produits. Et ce sera pareil. Ce sera comme avant.
Voilà. Mais consommer bio dans un sol qui a quand même été très lourdement contaminé, avec une eau, un air qui ont été très fortement contaminés.
Maintenant, au niveau radioactivité dans le sol, il n'y a plus rien ici. Hein, tous les radioéléments, l'iode disparaît totalement, l'iode 131, en 2 mois et demi, il n'y a plus de traces. Pour ça, il était facile de prendre des contre-mesures en mai 86. Hein. Le césium va durer... Longtemps, mais maintenant, bon, il y a eu des analyses, il n'y a que quelques traces qui remontent, mais c'est insignifiant. Quand il y a un accident nucléaire, il faut penser à toutes ces populations qui doivent quitter une zone. C'est des dizaines de milliers d'hectares et des bâtiments, des bâtisses, tout ça. Vous faites une vie, des générations passent une vie dans un endroit et il faut laisser tout ça en place, quitter, mais il faut... Comment nos scientifiques ne se mettent pas à la place de ces gens-là?
C'est un manque d'empathie, c'est un manque de compréhension de l'humain. Parce que quand ils parlent de coût, ils ne pensent jamais à ça. C'est-à-dire que pour eux, le coût d'un accident, ça n'est pas ça. Et pourtant, le coût, c'est chaque drame humain, chaque famille touchée, chaque enfant malade. Et ça n'est jamais pris en compte.
L'aliénation des territoires, quand on doit quitter, mais c'est des milliers de kilomètres carrés que l'on doit évacuer à jamais. Bah, Comment évaluer ce prix? C'est faramineux.
Vous n'avez pas pensé à quitter la Corse?
On a quitté la Corse.
Vous avez quitté la Corse?
Absolument. On a quitté la Corse. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 86, on était tellement fatigués à la fin de l'année. On était épuisés, on était moralement très, très en dessous de tout. On s'est dit, il faut qu'on parte. Et on a décidé de prendre des vacances. Ça, c'était nos premières vacances, fin 86. On est parti fin novembre, début décembre, à Madagascar. Et on s'est dit, chouette, là, on va se ressourcer, on va manger des choses saines, il n'est pas question de radioactivité. Et on a acheté un journal là-bas, dont de l'Ukraine à Madagascar, je ne sais combien de tonnes de riz.
20 000 tonnes de riz étaient données, je ne sais plus si c'est par l'Ukraine ou la Russie.
Enfin bon, peu importe. Et on s'est dit, tiens donc, on est parti, mais on y a droit encore. Et c'est vrai que là-bas, la situation est souvent délicate, il y a beaucoup de famine, et c'est sûr que les gens, la radioactivité, ce n'est pas vraiment leur première préoccupation, la préoccupation étant de manger tous les jours, pour certains. Et on s'est dit, mais voilà, le monde est quelque chose quand même de très fermé, de
c'est
très
ce que
petit.
C'est Roger Belbéoc appelait le partage démocratique de la radioactivité. Quand les denrées alimentaires sont trop contaminées dans une région, on les dispatche pour partager, pour que tout le monde en ait un peu.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Bernard Lagnel, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.